Bon ben voilà, je suis très content d'être devant vous ce matin pour vous apporter ce message de la part du Seigneur. D'autant plus que c'était pas gagné d'avance, parce que j'ai fait un petit voyage à Lyon cette semaine et j'ai bien cru que j'allais pas pouvoir être parmi vous ce matin. J'ai bien cru que j'allais rester coincé là-bas. Parce que peut-être vous avez entendu parler de ce contrôleur qui a été poignardé et des grèves qui ont suivi. Moi, j'avais un train à prendre, mais je crois que vraiment, le Seigneur voulait que je sois là ce matin, parce que je pense que j'ai eu le seul train dans toute la France qui non seulement est parti, mais en plus, il est parti à l'heure. Et ça, c'est un miracle. Et d'autant plus que mon message de ce matin, il est d'actualité, parce que vous allez voir, vous l'avez déjà, le titre de ce message, « Dieu face au mal ». Il faut admettre que pour en arriver à poignarder un contrôleur, il faut être rongé par ce mal, par la violence. Ce matin, on va voir l'attitude qu'a Dieu face au mal. Quel est le point de vue de Dieu face à ce mal? Pour cela, on va lire ensemble dans le prophète Habacuc. Alors, je vous invite tout de suite à chercher Habacuc. Pendant que vous cherchez, je pense que j'ai le temps pour un petit café. Non, mais je vais vous aider si vous ne connaissez pas où se trouve Habacuc. Je vous ai mis la liste des petits prophètes pour vous repérer. Donc Habacuc 1, chapitre 1, nous allons lire les versets 1 à 11. Message dont le prophète Habacuc a eu la vision. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès et des conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je vais faire surgir les Babyloniens. C'est un peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et redoutable, il est la source de son droit et de sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir. Ses cavaliers se déploient, ses cavaliers arrivent de loin. Il vole comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage, le visage tendu vers l'avant, et il rassemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses. Il amoncelle de la terre et il les prend. Alors il change d'avis et poursuit sa marche, et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. Donc ce matin, nous allons donc commencer l'étude de ce livre qui est écrit par un homme, pour remettre dans son contexte, un homme qui était profondément angoissé par la situation morale et spirituelle de la société dans laquelle il vivait. Et profondément angoissé aussi par l'apparente indifférence de Dieu face à ce mal. Il faut dire qu'Habacuc vivait dans une période très troublée. On est environ en 608 avant Jésus-Christ, et Habacuc est un prophète dans le royaume de Juda. Vous avez une carte affichée de Juda à cette époque. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? On voit des grandes puissances. On a d'abord, je ne sais pas si on va voir, l'Assyrie, qui est la superpuissance de la région, qui domine la région depuis 3 siècles. La Syrie, elle a complètement détruit le royaume d'Israël du Nord, il y a plus d'un siècle. Elle a emmené tous ses habitants en déportation. Mais voilà, au temps d'Habacuc, que la Syrie est vraiment sur sa fin, et on voit une nouvelle puissance qui émerge, c'est Babylone. Babylone est en train d'inverser la tendance dans la région. Et puis on a une troisième puissance, c'est l'Égypte, qui est connue pour la force de ses armées. Et de Pharaon. Et Et voilà, dans ce contexte, eh ben, le petit royaume de Juda, il se trouve là. Il est entouré, pris en étau par toutes ses puissances. La situation n'est pas plaisante. Mais après tout, vous allez me dire, ben, Juda, ils ont avec eux l'Éternel. L'Éternel qui a ouvert la mer Rouge, qui a mis toute l'armée de Pharaon à terre. C'est pas rien, ça. Mais voilà, pour cela, il faudrait encore que Juda se préoccupe un peu de son Dieu. Parce qu'on a vu la situation politique et géographique de Juda, mais la situation spirituelle n'est pas mieux. Pourtant, 20 ans avant Habacuc, on a eu le bon roi Josias. Peut-être vous vous rappelez du roi Josias. C'est un roi qui a redécouvert le livre de la loi, qui a voulu le mettre en œuvre, qui a fait disparaître toutes les idoles. Mais un peu avant Habacuc, Josias est mort, tué par l'armée égyptienne, et son successeur, il n'a pas tardé à faire retomber le peuple dans la déchéance spirituelle et dans l'abandon de Dieu. Alors vous pouvez imaginer l'angoisse que peut vivre un fidèle de Dieu dans ce contexte. Que fait Dieu ? Dieu serait-il indifférent au mal de la société d'Habacuc ? Dieu laisse-t-il le mal impuni ? Je vous invite à relire le verset 2. On va commencer l'étude de ce texte après avoir vu le contexte. Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi ? Tu n'écoutes pas, j'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Le livre d'Habacuc commence d'une manière originale pour un livre prophétique. Parce qu'avec les prophètes, on est plus habitué à des déclarations solennelles du type « Ainsi parle l'Éternel » ou « Sous le règne de tel roi, en telle année, la parole de Dieu fut adressée à un prophète. » Et ensuite, l'oracle de Dieu débute. Mais là, Habacuc commence par une prière à Dieu. C'est lui qui s'adresse à Dieu. Habacuc a choisi de nous dévoiler son propre cheminement spirituel et la transformation intérieure qui va résulter de son face-à-face avec Dieu. Il ne veut pas simplement nous dévoiler le plan de Dieu, il veut nous montrer ce qu'il vit intérieurement. Il veut nous faire vivre de l'intérieur ses réactions face à la révélation de Dieu, ses réactions quant à ce qu'il vit, ce qu'il voit autour de lui, ses luttes, ses incompréhensions, ses frustrations, ses fardeaux. Et voilà pourquoi ce livre est intéressant pour nous ce matin. Parce qu'on vit ces frustrations, on vit ces interrogations. Même si Habacuc est très éloigné de nous, on peut vraiment ressentir ce qu'il ressent. Et le premier fardeau qu'il nous partage, donc dans cette prière où il dit à Dieu « Que fais-tu ?» Son premier fardeau, c'est « Pourquoi Dieu n'exauce pas sa prière ?» Pour être plus fidèle au texte d'origine, le verset 2 pourrait se lire comme ceci. « Combien de temps, Éternel, ai-je appelé à toi ? Ai-je appelé au secours, sans que tu écoutes ? Je crie continuellement violence, sans que tu sauves. » On voit que qu'Habacuc prie depuis un bon bout de temps, sans que Dieu n'exauce sa prière. Et il semble vraiment à bout. Sa prière, elle n'a pas le ton de « S'il te plaît, Seigneur, est-ce que tu peux m'accorder un petit instant pour que je puisse te demander quelque chose ? Est-ce que tu peux juste écouter ce que je te dis ?» Non. La prière d'Habacuc, c'est la prière de quelqu'un qui est déterminé à avoir une réponse de Dieu. Il est sûr que sa requête est justifiée. Et il crie à Dieu, « Seigneur, réponds-moi. » Il persévère dans sa demande, il attend une réponse de Dieu. Mais voilà, du côté de Dieu, c'est silence radio. Bonjour, vous êtes bien sur la boîte vocale de Dieu. Je ne suis pas là actuellement. Vous pouvez me laisser un message après le bip. Je ne sais pas si vous aimez laisser des messages sur des répondeurs. Moi, je déteste ça. Et surtout, on ne sait jamais si la personne va nous rappeler. Eh bien là, rien ne laisse présager qu'Habacuc va obtenir une réponse. On pourrait presque dire que Dieu fait preuve de non-assistance à peuple en danger. Ça, c'est plus le type de situation qu'on est amené à voir dans des livres comme celui de Job, comme celui des psaumes. Pourquoi, Seigneur, combien de temps encore? Pourquoi, combien de temps? Ces deux questions, de grandes questions du chrétien quand il est dans l'épreuve. Et il faut être honnête, on a beau dire qu'on fait confiance à Dieu, qu'il est souverain, que s'il ne répond pas, c'est qu'il a une bonne raison. Bah, les prières qu'on adresse à Dieu, quand on n'a pas de réponse immédiatement, cela peut engendrer une souffrance intérieure. Surtout quand ces prières nous semblent justes, selon la volonté de Dieu. Par exemple, certains se souviennent peut-être une personne qui est venue quelquefois à l'église, qui s'appelle Marc Reg, pour qui on a prié de nombreuses fois. Marc Reg, il avait été persécuté dans son pays. Il vivait l'injustice. Sous prétexte qu'il était chrétien, on disait dans son pays qu'il avait commis un meurtre, ce qui était faux. Et ce chrétien, il demandait l'asile en France. Combien de temps on a prié pour qu'il obtienne l'asile? C'était juste qu'il l'obtienne, c'était normal. Mais Dieu a attendu à ce qu'on persévère. Il n'a pas répondu tout de suite, mais au final, il a répondu. Parfois, notre foi peut être ébranlée, remise en question par des événements qu'on vit, par des injustices auxquelles Dieu semble ne pas répondre. Moi, cette semaine, je me suis rendu à un enterrement. C'est pour ça que j'ai dû prendre le train pour revenir. J'étais à Lyon pour l'enterrement d'un de mes oncles. Et sur les cinq frères de ma mère, c'était le seul chrétien. C'est même lui qui a conduit ma mère au Seigneur. Sans lui, j'aurais peut-être jamais entendu parler du Seigneur. Et on a prié pour mon oncle ici à l'église. Et quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai ressenti une injustice. Parce que ses souffrances n'avaient pas été prises au sérieux par ses médecins. Pourquoi cet homme juste et doux, plein d'amour, est-il passé par ses souffrances et cette mort, alors que tant d'hommes mauvais vivent une vie facile? Nous avons le droit d'exprimer nos états d'âme à Dieu, de lui dire notre incompréhension, nos souffrances face à nos questions qui restent sans réponse, nos prières qui ne sont pas exaucées. Ce dont nous n'avons pas le droit, en revanche, c'est de laisser notre inquiétude semer le doute dans nos esprits, quant à la bonté de Dieu, quant à sa puissance, son amour, sa justice. Habacuc ne fait pas ça. Nous ne devons pas nous dire que Dieu se désintéresse de nous, de notre situation. Nous devons continuer de prier. Parce que là, Habacuc est confronté à son incapacité de mettre sa foi en équation avec ce qu'il vit. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il redouble d'ardeur pour rechercher une révélation de Dieu. Parfois, nous sommes face à une situation qui nous dépasse, à laquelle nous n'arrivons pas à trouver de solution. C'est un peu comme si on est face à un problème de maths où il y a plus d'inconnus que d'équations. On n'est pas capable de résoudre un problème comme ça. Alors, il nous faut de l'aide. Il nous faut nous tourner vers Dieu. Il nous faut lui dire « Seigneur, je ne comprends pas. Je suis incapable de comprendre. Révèle-toi à moi. » Alors Dieu nous montrera un aspect de sa personne que nous ne connaissions pas. Il nous donnera l'inconnu qui nous manque pour résoudre notre problème. C'est ce que fait Habacuc. Et le verset 3 nous permet de progresser dans notre compréhension de ce qui provoque le cri du cœur d'Habacuc. Au verset 3, Habacuc parle de violence, de mal, d'injustice, d'oppression, de querelle, de conflit. Un constat déplorable. Alors quelle est la réaction de Dieu face à ce péché? Eh bien apparemment, aucune. Habacuc dit à Dieu, Seigneur, pourquoi n'agis-tu pas? D'après Habacuc, toujours verset 3, Dieu se contente d'observer. Le Dieu juste contemple l'injustice sans rien dire. Le Dieu saint ne réagit pas à tout le mal qui est commis. Et puisqu'il ne fait rien, ben, il oblige en quelque sorte Habacuc à subir ce mal et à endurer une véritable révolte intérieure contre ce mal. Il y a chez l'homme, qu'il soit chrétien ou non, quelque chose qui le pousse à être révolté contre l'injustice, contre le mal. Parfois, on a l'impression que contrairement à Dieu, à nous, Dieu ne réagit pas au mal. Car il ne juge pas immédiatement celui qui commet le mal. Tout semble réussir aux méchants. Et ce constat, ça m'a rappelé un psaume que Franck nous avait partagé il y a quelques dimanches, le psaume 73, que je vous invite à chercher. Nous allons lire les versets 1 à 12. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste du monde. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier, la violence les enveloppe comme un manteau. » Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse, les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaye la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Comment Dieu pourrait savoir? Dieu est-il au courant de ce mal qui se trame sur cette terre? Alors en application, pour en revenir à Habacuc, on voit qu'il est scandalisé par le mal qui règne en Juda et l'absence de réaction de Dieu, l'absence apparente de réaction de Dieu face à ce mal. Nous devrions, nous de même, être scandalisés par le péché, la violence, le mal, l'injustice. Combien de fois est-ce que nous restons de marbre face au péché, comme si nous y étions résignés? Par exemple, supposons que votre patron vous demande de mentir pour couvrir votre société. Dans ce genre de situation, sûrement vous vous dites, si je ne le fais pas, il va m'arriver des problèmes. Mais c'est totalement faux. Car la Bible nous le dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Notre devoir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de nous tourner vers Dieu lorsque nous vivons des situations d'injustice ou de péché. Il nous faut dire, Seigneur, je suis incapable de comprendre. Révèle-toi à moi, Seigneur, aide-moi. Il faut plaider pour la justice auprès de Dieu plutôt que de nous tourner du côté de ceux qui commettent l'injustice. Troisième point de ces versets 2 à 4. Habacuc se demande pourquoi Dieu laisse le mal triompher, l'emporter. Habacuc supplie Dieu d'agir car il voit bien que sa nation est malade. Dans le verset 4, il décrit l'état de son pays. Juda, le peuple élu de Dieu, appelé à être une nation sainte. Ce pays est tombé dans une telle corruption que même ceux qui aimeraient respecter la loi et le droit en sont incapables. Selon vos traductions, moi dans ma traduction, j'ai la loi est sans force car le méchant triomphe du juste. Le mot triompher, il peut être traduit plus littéralement par entouré. Le juste est entouré de tellement d'injustice, de méchanceté, qu'il est incapable de faire entendre sa voix. Il est submergé. La décadence morale, spirituelle est totale. Et voilà ce qui arrive lorsqu'on s'éloigne de Dieu. Voilà le résultat lorsque l'homme ne craint plus Dieu, lorsqu'il est livré à lui-même. Son cœur s'endurcit, son orgueil, ses convoitises ressurgissent, elles prennent le dessus. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on retrouve tout cela dans notre propre société. Habacuc dénonce la violence, et en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son mari. Habacuc dénonce l'injustice, la justice corrompue. En France, il ne passe pas un jour sans qu'on entende parler de politique qui passe devant les tribunaux. À chaque fois, on a le droit à des dizaines de versions différentes, des témoins qui changent de discours. Même les juges sont mis en examen. Comment le droit pourrait-il être respecté? Si notre société, comme toutes les sociétés humaines, est malade, c'est que le cœur lui-même de l'homme est malade. Le constat est évident. Sans intervention de Dieu, et Habacuc l'a bien compris, la situation est sans issue. Alors que fait Dieu? Quel est son plan d'action face à cette situation dans l'impasse? Eh bien, on va relire ensemble une partie de la deuxième partie, à partir du verset 5. C'est la réponse de Dieu. Dieu sort enfin de son silence. Je vais relire juste le verset 5. « Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Dieu sort enfin de son silence. Mais ce n'est pas vraiment la réponse qu'on attendait. On le voit par la suite. Elle est étonnante, la réponse de Dieu. Comme il le dit lui-même, elle remplit d'épouvante. Il semble qu'elle ne console pas un homme abattu, qu'elle ne réponde pas à ses questions. Lui, il était préoccupé de son peuple et de l'état de son peuple, et Dieu lui fait un cours de géopolitique. Est-ce que c'est ce qu'il attendait? Pourtant, qu'est-ce qu'il ressort de cette réponse de Dieu? Principalement, une impression de contrôle absolu de Dieu, de souveraineté absolue sur la situation. Dieu répond à son prophète, « Tout est sous mon contrôle. » Dieu n'est pas seulement au contrôle de son peuple, mais aussi des ennemis de son peuple. Un peuple, pourtant, les Babyloniens, qui n'a aucun respect pour Dieu, dont la propre force est son Dieu, nous dit le verset 11. Ce peuple est fier de sa puissance, de sa force. Il est d'une violence extrême, une violence gratuite. C'est un plaisir pour lui de ravager, de saccager. À en lire la description qui nous en est faite, on pourrait croire que les Babyloniens, ou les Chaldéens, peut-être dans votre version, ne répandent même pas le mal pour en tirer profit. Ils le répandent simplement pour contenter leur propre Dieu, qui est leur propre force. C'est une joie pour eux. Les meurtres que vont commettre les Babyloniens sont comme autant de sacrifices qu'ils offrent à leur propre ego. Mais ont-ils seulement conscience d'être un simple instrument dans les mains de Dieu? Absolument pas. Pourtant, Dieu nous montre ici qu'il est aux commandes de l'histoire. Il a tout pouvoir sur cette terre. Personne n'aurait pu croire ce qui est dit dans ces versets au moment où ils sont dits. Personne n'aurait pu le prédire. Pourtant, l'histoire nous montre que c'est arrivé. Je vous invite à regarder cette carte. Vous avez en rouge Babylone avant, à ses débuts, on va dire. Puis en orange, l'étendue de son empire quelques années plus tard, après qu'ils aient tout pris, qu'ils aient tout ravagé. Voici la première révélation de Dieu à son prophète. Je suis aux commandes de toute la situation. J'accomplis ce que je veux au moment où je le veux, car j'ai tout pouvoir sur la terre. Toutes les choses sont dans ma main. Dieu est au contrôle. Et aujourd'hui encore, il est au contrôle. Est-ce que vous croyez cela ? Que Dieu est au contrôle de chacune de nos vies, au contrôle de tout ce qui se passe dans ce 21e siècle sur notre petite planète. Vous savez, je pense qu'Habacuc, il devait avoir assez peur de voir son pays entouré d'ennemis, sans foi ni loi. Nous aussi, on vit dans un monde où on peut avoir peur parfois. Certains, par exemple, ont peur de l'islam. La montée de l'islam. Savez-vous qu'environ 3500 personnes chaque année en France se convertissent à l'islam? On compte 1,3 milliard de musulmans dans le monde. Mais l'islam, pour nous, elle est contre la vérité de Dieu. Mais l'islam fait partie du plan de Dieu. Il est au contrôle, comme il était au contrôle de Babylone. Nous n'avons pas à en avoir peur. D'autres, peut-être, ont peur de la crise économique, de la dette qui ne cesse de s'accroître. Mais Dieu est au contrôle de tout ça. Il a un but derrière chaque événement. Rien n'est dû au hasard. Alors moi, dans mon travail d'ingénieur, j'ai des collègues dont le seul souci, le seul travail, c'est de faire du planning. Peut-être certains connaissent ça. Ils produisent ou ils conçoivent absolument rien de ce qu'on va trouver dans un avion, au final. Ils ne font qu'accumuler des informations pour planifier l'activité. Le but, c'est que l'avion soit livré en temps et en heure. Alors ceux qui suivent un peu l'actualité d'Airbus vont peut-être me dire que ces gens font pas très très bien leur boulot. Mais il faut dire, c'est pas pour les excuser, mais que la complexité est immense. Alors imaginez cela à l'échelle du monde. Dieu fait cela chaque jour. Quelle puissance ! Et nous, nous doutons qu'il puisse être au contrôle de notre propre situation. Mais on ne peut pas douter de cela. Prenons un autre exemple. D'après vous, pourquoi Dieu a mis en place l'Empire romain avant d'envoyer son fils Jésus mourir à la croix? L'Empire romain, pour moi, c'est une des œuvres les plus magistrales de Dieu dans l'histoire. Ils ont construit des routes dans toute l'Europe, des voies de communication, des voies commerciales, un système de lois. Ils ont instauré une langue internationale dans toute l'Europe et même jusqu'en Afrique et en Israël. Quand vous voyez les difficultés de l'Europe aujourd'hui pour s'unir, vous vous dites que c'est quelque chose, ce qu'a fait l'Empire romain. Moi, je pense que Dieu a suscité l'Empire romain pour que le message de son fils crucifié puisse être répandu à travers le monde grâce à cette langue internationale, ces voies de communication. Dieu avait tout prévu d'avance. Alors un tel contrôle absolu de Dieu sur l'histoire, sur le monde, peut paraître terrifiant. D'ailleurs, il le dit lui-même à Habacuc dans le verset 5. Il emploie le mot « épouvante ». Soyez saisis d'épouvante. J'ai tout intérêt à connaître le plan de Dieu, même à y participer, si je ne veux pas être écrasé comme le peuple de Dieu a été écrasé par les Babyloniens. Ça tombe bien parce que ce plan de Dieu, il nous le fait connaître. Il ne nous laisse pas dans l'ignorance. Il révèle son plan par sa parole. Dans ce début du livre d'Habacuc, Dieu a révélé à Habacuc que son plan pour Juda à cet instant précis de l'histoire, c'était le jugement. Dieu est non seulement au contrôle et aux commandes, Mais Dieu est aussi à l'œuvre. Il juge le mal pour lequel se plaint Habacuc. Relisez avec moi le début du verset 6. Je vais faire surgir les Babyloniens. Puis le verset 9. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage et il rassemble des prisonniers comme du sable. L'Éternel va permettre l'essor des Babyloniens pour amener un jugement contre son peuple qu'il a abandonné. Dieu révèle à Habacuc qu'il s'apprête à juger le mal commis par son peuple, car il est temps que Juda apprenne la sainteté de Dieu, sa haine du péché. Il est temps que Juda se retrouve au pied du mur et dise « Oui, Dieu nous avait prévenus, nous ne l'avons pas écouté. » Car voilà tout le problème de Juda, son incrédulité. On la voit au verset 5. Je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Combien ont tendance à rejeter l'idée qu'il faudra un jour rendre des comptes à Dieu de notre vie, de nos choix. Et je vois deux applications à cela. La première, c'est que beaucoup pensent soit que Dieu n'existe pas, soit qu'il se désintéresse de l'homme, ou encore qu'il est tellement bon qu'il ne jugera pas le mal commis par l'homme, même parmi ceux qui parfois se disent chrétiens. On ira tous au paradis. Dieu est bon, il ne permettrait pas qu'on souffre éternellement. Si vous êtes dans cette salle ce matin, que vous dites que Dieu ne jugera pas, détrompez-vous. Si vous n'êtes pas tranquille avec l'idée que Dieu puisse juger, vous jugez, que vous essayez de ne pas y penser, ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de mettre votre vie en règle avec Dieu. Il n'est pas trop tard. Il a rendu cela possible en envoyant Jésus prendre votre condamnation à votre place. Parce que cet avertissement qu'on voit dans ce livre d'Habacuc, il est aussi pour nous ce matin. Je vous invite à lire dans le Nouveau Testament le livre des Actes, le chapitre 13. Actes 13, versets 38 à 41. Paul est en train de prêcher à Antioche. Et il dit, « Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui, qu'il parle de Jésus-Christ, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérée par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention à ce qu'il ne vous arrive pas, ce qui est dit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Paul reprend ici le verset 5 de notre livre d'Habacuc pour dire en résumé, prenez garde à ce qu'il ne vous arrive pas la même chose. C'est ce qui vous arrivera si vous rejetez Jésus-Christ. On peut lire encore un peu plus loin, donc toujours dans Actes, au chapitre 17. Actes chapitre 17, versets 30 et 31. « Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Par l'homme qu'il a désigné, il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Dieu annonce à tous les hommes de tout lieu qu'ils doivent se repentir, car il a fixé un jour pour le jugement. Et la source du jugement, nous dit ce texte, c'est Jésus-Christ. Ce qui décidera de la condamnation ou du non-lieu, c'est Jésus-Christ. Où en êtes-vous avec Jésus? Dieu jugera le mal, que ce soit sur cette terre ou dans le ciel. faut être prêt pour cela. Deuxième application que je veux partager avec vous, c'est peut-être vous vous dites, mais moi je suis chrétien, j'ai accepté Christ, je suis donc exempté de jugement. Dieu peut-il amener un jugement sur un chrétien alors qu'il est sur cette terre? C'est une bonne question, non? Je pense que ce texte est aussi un avertissement pour nous les chrétiens. Ne traitons pas le jugement de Dieu à la légère. Notre statut privilégié d'enfant de Dieu ne nous donne pas la liberté de faire tout ce que nous voulons. Bien sûr, Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Et un Père aime ses enfants. Mais il attend tout de même d'eux l'obéissance. Mais être obéissant à Dieu dans une société rongée par le péché, c'est loin d'être évident. Je vous l'accorde. Mais alors gardons les yeux fixés sur l'œuvre de Dieu qu'il va accomplir. Cette œuvre que personne ne croit, mais que nous croyons, dont nous sommes sûrs. Dieu jugera le mal, et ce jour-là, ceux qui ont choisi Jésus seront du côté des vainqueurs. N'adoptons pas le comportement du monde qui nous entoure, mais cherchons plutôt à lui faire changer de comportement, à lui faire prendre conscience du jugement à venir. Alors pour conclure ce message ce matin, eh bien nous avons fait la connaissance d'un homme de Dieu qui vit une lutte intérieure, car il ne comprend pas que Dieu semble tolérer le mal qui règne autour de lui. Mais Dieu lui a répondu, « Non, je ne tolère pas le mal, et je vais répondre à l'injustice, à la violence, au péché. J'ai déjà fixé un temps pour cela. » Et j'aimerais vous laisser sur ces deux questions qui, pour moi, découlent de ce texte. Sommes-nous convaincus de la justice de Dieu? Et sommes-nous prêts à y faire face? Je vous invite à prier. Ouais, Seigneur éternel, merci de te révéler à nous par ta parole et de nous montrer que comme au temps d'Habacuc dans notre société, le mal règne. Mais Seigneur, tu as une réponse pour ce mal. Et tu nous l'as révélé dans tes Écritures. Merci de nous faire prendre conscience que tu n'es pas indifférent, que tu n'es pas absent, mais que tu es bien à l'œuvre. Nous pouvons avoir toute confiance en toi, Seigneur. Nous pouvons nous confier en toi pour trouver le remède à ce mal. Seigneur Dieu, encourage-nous à garder les yeux fixés sur toi, même quand nous ne comprenons pas. Encourage-nous à nous mettre en règle avec toi, à ne pas nous laisser contaminer par le péché de notre société. Aide-nous à être convaincus de ta justice et de ton jugement. Aide-nous à être sereins, Seigneur, devant ce jugement. En acceptant ton Fils, si ce n'est pas fait. Amen.